Ne rien faire du tout est la chose la plus difficile au monde. La plus difficile et la plus intellectuelle. C'est Oscar Wilde qui disait ça. Alors je propose à ceux qui le désirent une série d'entraînements intensifs. Un petit peu comme lire une recette de cuisine qu'on sait qu'on ne fera jamais. Ou regarder les horaires d'un train qu'on ne prendra pas. Vous pouvez m'écouter tous les soirs avec la ferme intention de ne rien faire de ce que je vous propose. Bienvenue dans le Mac de l'été. Tous les soir de juillet jusqu'à 19h, je vous accompagne doucement vers l'apéro. On taille le bout de culture au sens large avec, à 18h30, un petit panorama de l'actu culturelle. Ozzy Osbourne, épidémie de danse, Arles, choisissez votre mot-clé du jour. Et puis, mon invité ce soir, c'est la vidéaste, youtubeuse, docteur en histoire Manon Bril, qui monte sur scène pour 300 000 ans, un premier spectacle très réussi. Je vais lui présenter une réalisatrice qui va lui plaire, le contraire est impossible, je parie toute ma carrière là-dessus. C'est Émilie Valentin qui vient de co-réaliser un documentaire passionnant. Ça s'appelle « Aux armes citoyennes, les femmes dans la Révolution française ». Alors préparez les olives, sortez les radis, réglez les appuis-têtes, je m'occupe du reste. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Marie Misset.
Bonjour Manon Bril.
Bonjour. Oh là là, j'adore, c'est tellement l'été.
C'est l'été, hein.
Mais oui, le générique est parfait.
Et vous avez dit, j'ai dit bonjour et pas bonsoir, car 18h en été, c'est le milieu de l'après-midi.
Il fait bien jour encore.
Voilà, c'est vraiment, on est à peine commencé. Vous êtes docteur en histoire, Manon Bril. Vous avez écrit une thèse sur Athéna et la vision qu'on en avait au 19e siècle.
Ouais.
Vous êtes aussi vulgarisatrice sur YouTube avec votre chaîne C'est une autre histoire, qui a 10 ans, ça veut dire que vous avez commencé en 2015.
Ouais.
Vous comptez 720 000 abonnés, ce qui est plus que les habitants intramuros de la ville de Toulouse, où vous avez fait vos études. Et puis, depuis peu, donc, vous montez sur scène avec votre spectacle 300 000 ans, toujours drôle, comme vos vidéos, toujours celui d'une vulgarisatrice en histoire. D'ailleurs, vous dites que c'est un spectacle historico-politique, historico-rigolo.
Ouais, mais c'est plus drôle que cette blague, je dis souvent après. Venez.
Spectacle où vous vous employez à faire dire à votre audience que la tradition, c'est une illusion. Ah, puis vous avez aussi créé un festival de la culture, le Culture Fest.
Que vous connaissez bien, il me semble.
Il y a un mois, que je connais, dans lequel j'ai traîné mes guêtres. Comment ça va, le burn-out, Manon Bril ?
Mais ça va super, je suis en vacances après-demain, donc je vais pouvoir savourer votre émission, me reposer et éviter ce fameux burn-out. Oui.
On va prendre justement le temps de se projeter un petit peu dans vos vacances à venir pour vous détendre, Manon, avant de commencer à parler de vous. J'ai envie de savoir quelle juilletiste, quelle haussienne vous êtes. C'est le test, hein, c'est un test de maguette de l'été, après tout. Quelle estivante êtes-vous ? Quand est-ce que ça commence, l'été, pour vous, Manon Bril ? Qu'est-ce qui sonne le début de l'été ?
Bah justement, pour moi, c'est le Culture Fest. Donc, si je peux me permettre, je vous présente, c'est mon festival, c'est le festival de la culture détendue, comme j'aime l'appeler, n'est-ce pas ? Donc, où en gros, il y a plein d'intervenants, intervenantes, et qui viennent du web, et journalistes, et artistes, etc., qui viennent soit faire des cartes blanches de 15 minutes, soit présenter des podcasts avec des créneaux d'une heure et tout. Il y a plusieurs scènes et tout, il y a plein d'autres activités. Mais du coup, ça c'est toujours fin mai, on fait exprès de le faire là. En vrai, c'est plutôt le printemps, mais je trouve que ça annonce les réjouissances qui arrivent le mois de juin. Bon, j'adore le mois de juin parce qu'on est encore là, mais c'est le début de l'été. Il y a encore du monde pour faire les apéros. Après, les gens partent en juillet, août et tout, donc le mois de juin est trop bien pour ça. Du coup, moi je trouve que le Culture Fest, c'est le début de l'été, même si c'est encore le printemps, mais je le vis comme ça dans ma vie perso.
Vous avez fait quoi comme petit boulot d'été, Madame Bril ?
Alors, j'ai fait très peu de petits boulots rémunérés, mais j'ai été bénévole très longtemps aux éclaireurs et éclaireuses de France.
Vous avez passé le BAFA.
Où j'ai passé le BAFA
bien
et tout.
Bien sûr, nous ne sommes pas étonnés.
Oui, c'est une association de scoutisme laïque, donc c'est les scouts sans la religion et sans uniforme. J'y étais enfant, c'était aussi mes vacances préférées en tant qu'enfant. Et après, j'étais animatrice pour rendre un peu, renvoyer l'ascenseur et... Et voilà, c'était ça, surtout mon boulot d'été. J'ai passé du temps toute l'année et l'été aussi à encadrer les enfants, quoi.
Et justement, vos vacances d'enfants, ça ressemblait à quoi ? C'était plutôt colonie, vacances avec les parents ? Vous alliez dans beaucoup d'églises ? Vous alliez dans zéro église quand vous visitiez des villes ?
Plus avec ma mère, on faisait un peu les sorties culturelles. Mon père est moins vieille pierre, on va dire. Mais du coup, mes vacances, c'était les éclaireurs et éclaireuses de France. Et vacances en famille aussi. J'ai la chance d'avoir des parents qui avaient le goût du voyage. Donc, on a eu ce privilège de voyager et tout.
J'aimerais vous replonger un petit peu dans l'été de vos 20 ans, Manon. Oh, c'était il n'y a pas si longtemps. Oh, tout de même, alors... 2007, on était encore insouciants. Le monde ne nous était pas encore tout à fait tombé dessus. Pour vous aider à vous remettre dans le bain, on vous a préparé une petite madeleine de Proust sonore. C'était donc l'été 2007.
So what's wrong with the blueberry pie?
There's nothing wrong with the blueberry pie. Just people make other choices. You can't blame the blueberry pie. It's just no one wants it.
Wait. Uh-huh. I want a piece.
Il y a des jours comme ça, ce 30 juillet 2007 restera une date marquante pour le cinéma. En l'espace de quelques heures, on apprenait d'abord la mort de Michel Serrault, puis celle d'Ingmar Bergman. Bergman, un cinéma cérébral et exigeant.
Oh, oh. Attaché culturel, c'est distingué ta façon de manger. On dirait une pelleteuse.
Serrault, un cinéma populaire de qualité comique, souvent, dramatique parfois, avec le même bonheur.
J'ai l'impression que vous vous rappelez un petit peu plus de Justice que de la mort d'Ingmar Bergman,
oui,
Manon Bril.
Possible. Avec mes Sarouels, là, du haut de mes 20 ans, j'ai pas regardé ces trucs-là, je pense.
Vous vous rappelez de cet été-là, Manon, de vos espoirs, de Umbrella, peut-être plus d'ailleurs de Justice,
2007,
qui portait des Sarouels.
2007, j'étais vraiment full Sarouel, premier voyage en Afrique, etc.
Des nattes.
Ouais, ouais.
Vous avez fait des tresses.
J'ai fait des tresses.
On peut trouver ces photos.
J'ai un peu honte. Oui, oui, oui. Je regrette voilà l'appropriation culturelle d'une période où j'avais 20 ans et où on n'avait pas ce type de déconstruction, n'est-ce pas?
Est-ce que vous faites partie des gens qui disent qu'ils laisseront jamais personne leur dire que 20 ans c'est le plus bel âge de la vie?
Alors ça, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord avec le fait que c'est pas le plus bel âge de la vie. En effet, moi j'ai aimé ma vingtaine, mais la trentaine, je trouvais ça beaucoup mieux, quoi.
2007, c'est aussi l'année de la sortie de ce tube qui ne vieillit pas, de cette merveille que je vous remets dans les oreilles. Manon, à vous et aux auditeurs, on pense fort à Amy Winehouse, c'est Back to Black sur France Inter.
My head high and my tears. J'ai peur du noir, j'ai peur de l'ombre, la nuit. Parce qu'au fond, qu'est-ce que nous savons des êtres humains depuis l'origine des temps? C'est une manière modeste, notre discipline, quand on fait de l'histoire, de dissiper ces ombres, de créer un petit peu plus de clarté. Et c'est comme ça que l'histoire évolue. L'histoire est une lutte obstinée contre la nuit.
Manon Bril, docteur et vulgarisatrice YouTube en histoire avec sa chaîne Une autre histoire et l'invitée du MAC de l'été. Manon, vous aurez reconnu, je pense, la voix de la pionnière de l'histoire des femmes, Michel Perrault, pour qui faire de l'histoire, c'est se battre contre la nuit. Est-ce que c'est une phrase, vous, à laquelle vous souscrivez ?
Oui, 100%. Oui, 100%, c'est exactement ça. Enfin, en gros, l'histoire, ça sert à comprendre pourquoi le monde, il est comme, le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est comme ça, en comprenant par quel chemin on est passé pour y arriver. Et du coup, moi, ce que je dis pas mal dans le spectacle, c'est que quand on se penche dessus, on se rend compte que les traditions qui ont l'air d'être immuables et que certains brandiraient au nom de il faut pas y toucher, ça doit pas changer, ça, c'est une illusion et illusoire, ça a toujours changé, ça changera à nouveau. Donc ce que je dis, c'est pas il faut mettre de côté toutes nos traditions, c'est plus s'il y en a une qui nous dérange ou qui exclut ou fait souffrir des gens, on peut la changer parce que de toute façon elle changera.
Ce dont on se rend compte aussi dans votre spectacle, je trouve, c'est le côté vague, c'est-à-dire que vous parlez notamment d'historiens qui n'imaginaient pas au 19e siècle qu'une femme puisse être chef ou qu'elle puisse être enterrée avec un char. Donc ça veut dire qu'avant, il y en a une, et ça, c'est aussi ça qu'elle dit, Michel Perrault, c'est que c'est des vagues et qu'on n'est pas dans quelque chose de linéaire.
Oui, on a une représentation de l'histoire qui se veut, en Occident, qui se veut très linéaire et où on irait tout le temps vers le progrès et tout, mais dans les faits, en fait, c'est très discutable. Alors déjà, il faut quantifier qu'est-ce que ça veut dire progrès, mais si vous voulez mon avis personnel sur le progrès social, bon bah clairement, de mon point de vue de personne de gauche, par exemple, il y a des régressions sur les droits, etc. Donc ça pourrait se discuter. Est-ce que c'est du progrès ou non. Alors d'autres diront que c'est des avancées, mais même du point de vue, si vous vous placez à droite, vous direz, bah, dans ce cas, il y a eu des régressions vu que, je sais pas moi, il y a eu, on a fait passer l'avortement dans la Constitution ou ce genre de truc, quoi. Donc bon, c'est très discutable cette notion de progrès et il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on a oubliées et ainsi de suite, quoi.
Et vous parlez des biais des historiens du 19e, même du 20e siècle, vous remontez jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ce serait quoi vos biais à vous, Manon Bril? Vous y faites un peu gaffe?
Bah, en fait, en gros, ce qu'on dit en histoire, c'est que les historiens et les historiennes, ils disent on doit s'efforcer tout le temps quand on fait des sciences historiques d'approcher de l'objectivité le plus possible, donc ne pas falsifier volontairement les faits, mais on sait que l'objectivité totale est totalement illusoire. Donc en gros, en sachant ça, on dit je connais mes biais, je les affiche, c'est mieux de les assumer et de les accepter surtout pour pouvoir progresser, faire mieux et les dépasser, mais se prétendre objectif et neutre, c'est complètement illusoire, voire malhonnête, et c'est là en fait qu'on falsifie. Les gens confondent subjectivité et malhonnêteté. On est tous subjectifs, même si on s'efforce d'atteindre l'objectivité, parce qu'on est des sujets, donc par définition on est subjectif. Par contre, volontairement déformer des faits, ça c'est de la malhonnêteté, mais c'est autre chose que la subjectivité.
Et il y a des trucs auxquels vous faites gaffe, vous dites ah,
bah, par exemple,
là-dessus je suis peut-être pas la plus...
Typiquement moi qui suis une personne blanche, je suis pas victime de racisme, donc il y a certains sujets où je sais que potentiellement j'ai des angles morts parce que je me rends moins compte des problématiques. Donc il faut faire attention de faire fact-checker par d'autres personnes qui connaissent mieux, relire certains trucs, voilà, ce genre de trucs par exemple.
Il y a pas longtemps je regardais une vidéo d'une humoriste américaine qui disait « J'aimerais aimer quelque chose autant que les hommes aiment YouTube ». Et c'est vrai que si on devait ranger les réseaux sociaux, YouTube c'est une plateforme à dominance plutôt masculine. Il y a d'ailleurs beaucoup de contenus masculinistes qui circulent, qui pullulent si on a envie de le dire comme ça. Ils y ont fait leur nid. Est-ce que vous, quand vous êtes arrivée il y a 10 ans, c'était quelque chose qui apparaissait déjà? Est-ce que vous considérez que vous êtes une infiltrée? Est-ce que ça vous interroge sur vos pratiques sur la plateforme?
Bah, alors les masculins, je sais pas s'ils sont encore plus forts maintenant qu'avant, peut-être dans le sens où on les entend plus, ou en tout cas les réseaux sociaux se polarisent, on va dire, mais dans un sens comme dans l'autre. Et pour ce qui est de la place des femmes sur Internet, bon bah ça a toujours été laborieux, on le sait, les statistiques sont très différentes, les femmes elles sont là, hein. Y a plein de chaînes tenues par des femmes, et d'ailleurs il y a aussi un... enfin, YouTube dit que ces statistiques d'inscrits et d'inscrites c'est 50-50, donc il y a autant de viewers femmes que hommes, c'est ce qu'ils disent en tout cas, je peux pas vérifier, mais c'est ce qu'ils disent. Et donc, c'est juste que les femmes, elles sont là, mais elles sont beaucoup moins poussées et beaucoup moins mises en avant. Et on le sait, on voit, on peut comparer des types de vidéos à contenu équivalent, les statistiques.
Vous l'avez fait il n'y a pas si longtemps.
Moi, j'ai fait il n'y a pas si longtemps, tout à fait, sur la chaîne de Charles Villa, où il m'a invité à discuter avec Charlie Danger, donc une autre vulgarisatrice. Et il a sorti exactement le même podcast avec deux vulgarisateurs masculins, Nota Bene et Rivenzi, qu'on adore aussi et qu'on embrasse aussi. Et vraiment, l'écart de vue, avec même titre, même miniature, était significatif. On voyait, en fait, dans les stats, il m'a montré ces stats de pourcentage d'hommes qui ont regardé la vidéo et pourcentage de femmes. En gros, il y avait le même nombre de femmes qui avaient cliqué sur les deux vidéos, mais il y avait deux fois plus d'hommes qui avaient cliqué sur la vidéo avec des hommes. Les hommes ne sont pas allés cliquer sur la vidéo, il y a des femmes, quoi. Bref.
Donc, oui, c'est de vérifier voilà. Empiriquement. C'est quoi votre histoire préférée, vous, pour convaincre les gens que c'est génial, l'histoire, que ça vaut une série à suspense?
Moi, ma passion, c'est la mythologie. Alors, c'est pas de l'histoire, parce que c'est des mythes et tout, mais bon, c'est des légendes épiques, etc. J'ai travaillé sur ça, du coup, pour ma thèse et tout. Et ça, ça a toujours du succès, un succès énorme aujourd'hui. On continue d'en faire des films, des réappropriations plus ou moins heureuses, etc. Mais c'est ça qui est trop beau, évidemment, on adore. C'est des histoires d'amour terribles, des romans, des récits, pas des romans, du coup, mais des récits épiques, des monstres, il y a des chimères.
C'est les feux de l'amour, en fait.
Ah ouais, de ouf. Donc, alors, évidemment, avec des trucs aujourd'hui qu'on relit différemment, notamment avec beaucoup d'agressions sexuelles et de trucs terribles comme ça. Mais bon, c'est des histoires palpitantes qu'on adore et qu'on peut remettre au goût du jour pour, parce que la mythologie, c'est déjà dans l'Antiquité, réécrit en permanence tout au long des centaines d'années que dure l'Antiquité. Les Aèdes, donc les poètes antiques, ils font déjà ça, transformer les mythes pour les mettre au goût du jour, de leur cité et tout. Donc nous aussi faisons ça, c'est totalement dans la tradition mythologique de le faire.
Il y a une série, je trouve, assez réussie sur Netflix qui s'appelle Zeus avec Jeff Goldblum.
Oui, mais qui n'aura pas de suite.
Qui n'aura pas de suite, et c'est dommage, mais je vous y renvoie parce qu'effectivement, c'est parfaitement adapté à l'époque.
Et ça colle à l'esprit, c'est vraiment une transposition équivalente. Ouais, c'est bien pensé, ouais, carrément.
Manon Bril, vous restez avec nous dans quelques minutes, on se fait un petit panorama culturel, histoire de savoir quoi lire, quoi voir, pourquoi pas qui manger. Et puis on parlera évidemment de votre spectacle 300 000 ans, très drôle, très instructif, où j'ai notamment appris, je le disais tout à l'heure, qu'une femme enterrée avec un char, c'était inconcevable pour des historiens jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais avant ça, je vous offre à vous, Manon Bril, à nos auditeurs, ce titre de Damso. C'est presque un zouk. C'est ce qui m'a, demandé tout de suite sur France Inter.
Tu sais, moi j'ai du mal à parler, j'ai tellement serré les dents. J'ai vécu des choses atroces, je connais la douleur des gens. Je cherche la paix un peu partout. Guidé par le vent, pour savoir comment aimer, j'ai demandé aux religions. Elles m'ont dit tu connais rien à la souffrance, celle que le temps ne guérit pas. Quand l'âme est blessée sur le chemin, ça laisse des traces depuis l'enfance. Et la mémoire n'a que le choix, d'y repenser, repenser, repenser. Moi je comprends pas pourquoi je suis né, je suis dans le bleu. Pourquoi mon daron a-t-il craché dans le trou? Il fallait savoir déjà est-ce que vous l'aimez. Vous cette vie énorme qui m'a demandé ma permission de lire au monde. Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de lire au monde? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey. La vie de rêve, la vie de Tony Braxton. Les mauvais choix font que je déconne. Son bras petit feu, le désespoir résonne. Tant d'innocents payent pour que l'Occident règne sur les consciences saines, puis de confiance. Les conséquences saines de la méfiance saine, les cœurs mis en scène qui innovent. Qui m'a demandé ma permission de lire en main? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. Mais qui m'a demandé ma permission de lire? Si je pouvais me prononcer, j'y passerais que quelques secondes. La vie de rêve, la vie de Tony, Tony, Tony. Pour finir à monter la jolie, jolie, jolie. Hey, la vie de rêve, la vie de...
C'était Damso avec Qui m'a demandé.
Le mag de l'été. Marie Misset. sur France Inter.
Tous les jours à 18h34 et 23 secondes, très exactement le Mac de l'été en mode vigie culturelle. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lit? Avec tous les jours au moins un truc gratuit et un peu d'ASMR pour vous détendre ou vous crisper selon vos préférences. C'est le panorama culture du Mac de l'été. Le panneau.
Panneau.
Oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
L'été de la culture a définitivement commencé. Le Festival d'Avignon a démarré samedi. Aujourd'hui, c'est au tour des rencontres de Arles. Mais on inaugure ce panorama de la culture avec des adieux très émouvants.
Come to our final song for ever. Thank you from the bottom of our...
C'était à Birmingham, samedi soir, que les larmes ont coulé pour les adieux de Ozzy Osbourne, chanteur mythique de Black Sabbath. Ozzy, pour les intimes, 76 ans, atteint de la maladie de Parkinson, dont c'était le tout dernier concert. Celui qui a un jour croqué une chauve-souris vivante sur scène, a chanté tous ses titres, les yeux cerclés de noir, immobilisé sur un trône, accompagné par une foule très très émue et par les grandes stars du métal international, de Metallica à Gojira. C'est l'événement métal qu'il ne fallait pas rater cet été, alors que Mediapart révélait justement ce week-end que des festivalières du Hellfest s'étaient plaints de Till Lindemann, le leader de Rammstein, programmé malgré des plaintes pour violences sexistes et sexuelles largement documentées. Où est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on regarde?
Votre attention, le jeu va bientôt commencer.
Pourquoi vous m'avez laissé en vie?
Joueur 456, as-tu toujours ton foi en l'être humain?
Sur les plateformes, vous pouvez vous faire soit la saison 3 de la série coréenne événement Squid Game, c'est sur Netflix, jugé très gore par la critique, ou alors vous vous concentrez sur l'histoire de l'invention des bigoudis. Je sais, je vous fais rêver, et pourtant vous devriez. Elle est racontée dans Carmen Curlers, c'est une série danoise délirante, c'est drôle, c'est inattendu, et c'est sur arte.tv. On reste avec une artiste danoise pour la première fois ce soir à Avignon, dans la cour du lycée Saint-Joseph. Mette Ingvardsson propose son spectacle Delirious Night. Elle s'intéresse à ce que pourrait être une irruption contemporaine des épidémies de danse, telles qu'on en a connu au Moyen-Âge, ces grands rendez-vous de folie collective comme on a connu Strasbourg par exemple en 1518, quand la danse devient un symptôme et que les corps explosent. Ça commence ce soir à Avignon.
Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.
Et puis deux expositions sur les papas, sur les pères, aux rencontres de la photo de Arles qui viennent de commencer. Père et à la recherche du père raconte deux quêtes, une personnelle, celle de l'artiste Diana Marcossian, dont la mère a coupé le père de toutes les photos de famille quand elle l'a quitté et qu'elle est partie vivre aux États-Unis, et une plus générale de Camille Lévesque sur la figure du père, voire du bon père de famille. En creux, dans ces deux expos, résonne justement la douleur de l'absence. Et on va où demain? Hier, à Arles, Rachida Dati réveillait littéralement une Arlésienne en évoquant l'ouverture d'un possible musée de la photo à Arles pour fêter le bicentenaire de l'invention de la photo par Nicéphore Niépce. Alors qu'un musée de Nicéphore Niépce existe déjà à Chalon-sur-Saône. Il y fait moins chaud, il y a moins de Parisiens et plein de trucs pour les enfants. En plus, Nicéphore, il était bourguignon, comme moi, et c'est totalement gratuit. Et pour finir ce panorama, laissez-moi vous offrir 10 secondes d'ASMR de l'été. Vous reconnaissez ce souffle énervé dans la chaleur de l'été? C'est le vôtre? C'est celui que vous utilisez le moins discrètement possible, en forçant le geste, en fronçant les sourcils, pour manifester votre agacement face à cette personne qui a mis sa serviette si proche de la vôtre à la plage, mais vous n'avez pas assez de courage et une légitimité discutable pour réclamer ce bout de plage, alors vous soufflez. Vous Vous le pratiquez, vous aussi, ce souffle lâche mais libérateur, Manon Bril?
Moi, je suis plus côte atlantique, donc on a de la place, on n'est pas serré comme en Méditerranée, les gens si de je puis l'ouest. Me permettre. Le vrai sud.
Voilà, tout ça, j'ai rien. Le vrai sud avec du vent et des grosses vagues.
Oui.
Avec moi ce soir à la table du Mac de l'été, l'historienne vulgarisatrice que vous venez d'entendre, youtubeuse, histoire, stand-upeuse, organisatrice de festivals et peut-être hyperactive, Manon Bril. Justement, parlons de votre spectacle qui était en rodage jusqu'à maintenant, mais qui, à la rentrée, sera à l'Européen à Paris. Il s'appelle 300 000 ans. Je vais vous dire un truc. C'est une sorte de compliment à double tranchant, Manon. C'est un peu comme les gens qui vous disent « Dis donc, t'es belle aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait ?» Vous voyez ce genre de compliment à double tranchant. Mais j'ai été surprise par la qualité de votre spectacle.
Merci.
Alors, ça sonne mal, hein, comme ça, je sais.
Bon, je suis hyper touchée. Maladroite.
Non, je suis touchée. Mais c'est votre premier, c'est votre tout premier spectacle. Je l'ai vu en plus en captation et pas en vrai.
Doublement touchée.
Voilà. C'est votre premier, vous étiez en rodage jusqu'à maintenant et déjà, vous proposez quelque chose de très construit, de très réussi. Vous êtes hyper à l'aise sur scène. Vous maîtrisez des personnages et ça, c'est pas donné à tout le monde. Pourtant, je crois que le soir de la première, vous étiez absolument tétanisée, mais du genre terrifiée.
Oui, j'avais peur. Au début, j'avais peur carrément. Enfin, au tout début, la toute première du rodage et tout, il y a presque un an, donc en juillet, à la Comédie des Trois Bornes et tout, j'avais très, 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 très peur. Et la confiance est venue parce que là, on est à, je sais plus, 50 ou 60 dates de rodage.
Oui, ça
y est, je commence à connaître. Le métier rentre, quoi, tout simplement.
Mais vous l'avez fait à toute allure. Dans ce que j'ai entendu, vous êtes rentrée sur scène, vous avez fait.
Au début, avec le stress, j'allais très, très vite parce que j'avais un truc de si je parle hyper vite, eh ben, il n'y a pas de blanc. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de blanc. Mais bon, en fait, il faut laisser du temps aux gens pour rire, pour entendre, pour, je sais pas, donner un ton plus charismatique aussi.
Il est où, du coup, le plaisir dans cette histoire de monter sur scène, de voir des gens en vrai rire ou non, d'ailleurs, à des blagues, avec des blagues qui peuvent être ratées? C'est quoi le plaisir d'être terrorisé dans cette histoire?
Bah, c'est vrai que c'est terrifiant et que souvent, une demi-heure avant, on se dit pourquoi on fait ça, et après, quand on sort, on dit je veux recommencer. Mais du coup, ce qui est super, c'est en effet le retour direct par rapport à moi qui ai l'habitude de travailler sur Internet et de poster sur Internet. On voit les commentaires après. Là, on peut comprendre tout de suite, même si en effet, ça marche pas. D'ailleurs, on peut comprendre, oula, cette vanne, elle passe pas, ou alors là, je suis pas assez claire, je vois que les gens, ils froncent les sourcils, c'est pas assez clair mon propos, donc on va améliorer le texte, et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et quand ça marche, évidemment, bon, bah, l'ego est plus que gratifié, on va pas se mentir. Quand la salle rigole ou fait une standing ovation, c'est incroyable.
Que le bonheur, c'est aussi que les choses ne restent pas. C'est-à-dire que quand c'est raté, c'est raté.
Oui, c'est
et
bien
on
aussi.
Vous ressort pas la vidéo 2 ans plus tard. Je crois que vous avez fait des années d'impro. Vous avez parlé de Sarouel tout à l'heure.
Oui.
Vous pouvez citer l'intégralité des citations de Kaamelott. Vous venez de Toulouse, intermittente du spectacle. Finalement, c'était un petit peu écrit.
Oui, c'était un peu de. Ouais, c'est vrai que c'est une continuité assez logique, j'avoue.
Il y a un leitmotiv dans le spectacle, c'est la tradition est une illusion. Ce que vous démontrez notamment avec un exemple très probant, on va pas gâcher le spectacle à ceux qui iraient le voir, mais je me contenterai
on peut donner
de dire
un exemple.
Ouais, qu'à Rome, dire à quelqu'un qu'il était formidablement bien doté au niveau de l'entrejambe, c'était plutôt une grosse insulte.
Oui, et il fallait pas avoir un gros pénis dans l'Antiquité.
Non, c'était pas bien, parce que en fait,
l'idée,
un peu bête, quoi, si
bah,
on avait
en gros,
un gros pénis.
On pensait que le physique reflétait qui on était à l'intérieur, donc un grand membre, ça veut dire qu'on est obsédé sexuel, qu'on est mangé par ses pulsions en gros, qu'on peut pas se contrôler, et ça au pays des philosophes ça le fait pas, c'est pour ça que petit pénis, c'est pour ça que les statues que vous voyez dans les musées ont des petits zizi, et du coup mon point c'est de faire des blagues avec ça parce qu'évidemment c'est marrant, mais aussi d'amener à réfléchir sur des injonctions ici celles à la masculinité qui ont jamais toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui par exemple.
Mais ce qui est fou c'est que vous citez des auteurs latins qui vraiment usent de cette insulte.
C'est une insulte.
Ouais, c'est vraiment une insulte. Et ma question à moi c'est comment on trouve ce genre d'information, Manon Bril? Comment on trouve ces textes qui viennent parler de ça? Vous avez d'abord eu une intuition, j'ai l'impression, dans les musées en vous disant comment ça se fait cette histoire.
Ouais, il y a plein de gens qui se sont dit je suis pas la seule, mais comment ça se fait que ça soit comme ça? Et oui, après on creuse et tout, on cherche des sources. Alors celle-ci, c'est un sujet que j'avais fait en vidéo il y a hyper longtemps au début de la chaîne, donc je me souviens plus j'avais trouvé les sources, donc là je suis allée rechercher ce que j'avais fait comme travail là-dedans, mais il y a plein d'historiennes et d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là et tout, donc on peut vraiment tout trouver en histoire en diguant dans les banques de recherche et tout. Ça c'était mon taf de chercheuse à l'époque quand je faisais ma thèse bien sûr, mais...
Oui, ouais. Les archives c'est quelque chose dans lequel vous sentez bien, à l'aise, heureuse.
Alors je dirais pas ça, mais
non,
j'y ai
pas
passé
votre...
du temps. Ouais, je suis contente de faire la vulgarisation, c'est beaucoup plus fun, mais oui.
Vous mettez aussi en boîte dans le spectacle les Patrick scientifiques de toutes les époques qui ont étudié leur histoire avec leur biais. C'est donc comme ça qu'on découvre, on l'a déjà dit, que pendant au moins 120-150 ans, découvrir des femmes dans des tombes de guerriers ou de chefs, c'était tout simplement, et moi j'ai trouvé ça marrant, en fait c'est tout simplement inconcevable. C'est-à-dire oui, qu'il y a d'autres explications au fait qu'il y ait un char dans une tombe de femme. Oui, il y a d'autres explications au fait qu'il y ait un utérus dans un squelette de chef.
Bah, en gros, ce que je dis, c'est que pendant très longtemps, l'archéologie, quand elle ouvre des tombes, elle fait, en gros, pour schématiser et raccourcir bien sûr, mais elle fait « Ah, il y a des armes, donc c'est un homme qui est enterré là. Il y a des bijoux, donc c'est une femme. » Et en fait, on se met à étudier les squelettes de plus près et se rendre compte que, mais là, en fait, dans cette tombe où il n'y a que des bijoux, bah, en fait, c'est un squelette d'homme. Là, dans cette tombe où il y a des armes, c'est un squelette de femme. En faisant des tests ADN, on peut confirmer et tout. Et quand souvent, quand on constate que c'est une femme enterrée avec des armes, au lieu de se dire « Ah, bon, bah, c'est une femme guerrière », on va dire « Hmm, alors pour quelle raison ? Peut-être qu'on s'était trompé quand on a déterré le squelette et on l'a mélangé avec un autre. » On va chercher des justifications au lieu de se dire « Bah, en fait, c'est juste d'autres codes, d'autres temps » et accepter que la différenciation genrée n'est pas intemporelle, universelle. Et voilà. Donc ça, c'est un biais sexiste qui nous induit en erreur, quoi.
Je voulais vous proposer de faire votre prochain spectacle en ancien François. Pour bien démontrer que la tradition, notamment langagière, est en effet
une illusion. Bien sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça demande pas mal de recherche.
Oui, ça va être délicieux à écouter.
En tout cas, votre spectacle, moi, il m'a donné envie de vous présenter une femme qui a réalisé un documentaire passionnant pour Arte sur les femmes oubliées, effacées de la Révolution française. Je suis sûre que ça va vous donner de la matière pour un autre spectacle, pour une autre vidéo, voire peut-être vous allez l'inviter sur votre chaîne. Dans quelques instants, donc, la co-réalisatrice du documentaire « Aux armes citoyennes, les femmes dans la Révolution française », c'est Émilie Valentin. C'est le choix du Mac de l'été pour vous, Manon Moïl. Cette tempête de cerveau, c'est juste après « La douceur de Roseau », projet d'Émile Omar, avec sur ce titre la voix incroyable de Mélissa Lavaux qui demande « Why should I smile ?»
Why should I smile ? Why should I smile for you ? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I had no time for cheap words, table wine. I have no time for thin saris from a swine. Why should I smile? Why should I smile for you? Tongue once divine, tasting foul since June. I have no space for double faces on my dime. I have no grace for my lovers in my crimes. Another day without you. I'm better off without you. Another day without you. I carry. Why should I smile? Why should I smile for you? Action so vile. Speak clear and loud of you. I pay no mind to your begging and your pleas. I pay no mind even though you're on your knees. Another day.
C'était Roseau avec Mélissa Lavaux qui se pose une question que peuvent se poser bien des femmes. Watch, why should I smile?
France Inter, le mag de l'été.
Le mag de l'été qui vient d'être augmenté d'une personne avec Manon Bril. Nous avons été rejoints par la réalisatrice et scénariste Émilie Valentin pour, je l'espère, une rencontre au sommet. Bonjour Émilie Valentin.
Bonjour.
Vous êtes la co-réalisatrice avec Mathieu Schwartz. On dit Schwartz ou Schwartz ? J'avais un Schwartz dans ma famille, donc
alors,
moi je dis Schwartz,
mais... Moi, je dis Schwartz, mais lui, comment tu dis, Mathieu?
Voilà, bon, on réglera ça plus tard. C'est bien que je vous l'ai demandé à l'antenne, en tout cas. Co-réalisatrice d'un documentaire disponible depuis le 28 juin sur Arte.tv, puis qui est passé samedi soir à la télé, Aux armes citoyennes, les femmes dans la Révolution française, où l'on redécouvre Olympe de Gouges, mais aussi Théroigne de Méricourt, Claire Lacombe, Pauline Léon. Pas les dernières, c'est de là à demander à ce qu'on coupe des têtes, mais aussi la sous-lieutenant Catherine Pocheta. Donc moi, je pense que je n'avais vraiment jamais entendu parler. Émilie Valentin, c'est pas la première fois que vous vous intéressez à des femmes pionnières. C'est même un petit peu le fil rouge de votre travail depuis des années. Vous vous êtes intéressée à la formidable designeuse Charlotte Perriand, à des femmes sculptrices. Vous avez co-adapté la BD Les culottés de Pénélope Bagieu. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur les femmes dans la Révolution? Un peu moins pop culture.
C'est vrai, moins pop d'habitude. Il y a un sujet historique, je ne suis pas historienne contrairement à Manon, donc il y a un gros sujet. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de s'attaquer à des sujets en racontant ce qu'on n'en sait pas forcément, en mettant de la lumière sur ce qui restait dans l'ombre. Et la Révolution française, c'est quand même un grand moment de soulèvement populaire, un moment très mixte dans la société, mais on connaît pas les femmes.
Dont les héros restent aujourd'hui des hommes. Ouais, on pense à Danton, Robespierre, Olympe de Gouges quand même.
Mais c'est assez récent en plus. C'est assez récent et même l'historien qui a fait sa biographie, un des premiers à l'avoir remise en lumière, il travaillait à partir de rien. Il dit dans le film, elle appartenait à la petite histoire avec plein de légendes, plein de rumeurs pour la décrédibiliser déjà un petit peu politiquement.
Il fallait les tirer le fil de ce qui était vrai, de ce qui était faux. Vous l'avez regardé, Manon Bril, le documentaire?
Oui, je l'ai regardé du coup.
Vous avez découvert des choses que vous ne saviez pas du tout.
Absolument, quasi tout appris. Comme plein de gens, je connaissais que Olympe de Gouges, donc super.
Votre documentaire avec Mathieu Schwartz, il reprend la chronologie de la Révolution. Vraiment, c'est un petit cours d'histoire en même temps. Il y intègre enfin des femmes qui ont activement participé. Et on découvre un peu comment leur participation a été volontairement minimisée. Mais tout de suite, hein, presque, c'est contemporain du moment où ça s'est passé. Et il y a notamment ces journées du 5 et 6 octobre où une foule composée en grande majorité de femmes qui ont faim, qui sont en colère, ramène le roi à Paris. C'est comme ça que le roi rentre de Versailles à Paris. Enfin, rentre, va de Versailles à Paris. C'est un moment fondamental de la Révolution qui aujourd'hui fait beaucoup moins partie de ce que les mémoires collectives retiennent, beaucoup, beaucoup moins que le 14 juillet, par exemple. Et est-ce que c'est parce que c'est la reine Odu, celle qu'on appelle la reine Odu, qui était un petit peu la fer de lance de ce mouvement, de ces journées?
Alors, je pense que c'est effectivement probablement parce que c'est une journée politiquement menée par des femmes, qu'elle est un peu moins connue dans l'histoire, puisque, en tout cas, les historiens, il n'y a évidemment pas consensus là-dessus, il y a autant de points de vue que d'historiens, mais c'est une journée qui a des conséquences politiques beaucoup plus fortes que la prise de la Bastille. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui ne part pas comme un mouvement politique, mais comme un mouvement de colère. C'est les dames des Halles, donc des marchandes, qui sont aux premières loges, en fait, pour voir que les prix augmentent, les quantités baissent, il n'y a pas ce qu'il faut pour vendre. Et c'est pas possible de nourrir Paris. Et donc, elles ont la tradition, elles ont l'habitude, c'est déjà arrivé, d'aller voir le roi pour se plaindre. Elles sont écoutées par le roi. Donc, elles décident d'y aller. Elles sont un petit peu plus vénères que d'habitude, un peu plus nombreuses. Elles ramènent sur leur chemin plein d'autres femmes, puisque toutes les femmes qui travaillent à cette époque-là et qui sont dans les rues, elles sont confrontées à ces problèmes économiques. Donc, elles vont toutes en masse sur Versailles. Et elles arrivent à faire signer la Déclaration des droits de l'homme au roi, ce qu'il refusait de faire jusque-là, et elles le ramènent, manu militari, à Paris, ainsi que les États généraux. Donc en fait, tout le gouvernement, tout se retrouve, enfin, l'équivalent d'un gouvernement, tout se retrouve à Paris. Donc au milieu des révolutionnaires, au milieu de la foule.
Qui ont beaucoup plus de poids, du coup, sur ce qui se passe. Mm-hmm. Vous avez intégré de l'animation pour représenter ces femmes, la reine Odu, Théroigne de Méricourt. Quand on voit des représentations d'elles de l'époque, en tout cas, moi, ça m'a frappée, et peut-être que c'est les représentations générales, vous allez me dire, j'ai été étonnée de voir à quel point on leur donnait à l'époque des traits très masculins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les voit dessiner, etc., c'est pas des femmes très féminines.
Ah, y a très peu d'archives. Comme c'était pas forcément des femmes issues de classe sociale où elles allaient avoir des portraits, être peintes, dessinées, et pas des femmes qui ont eu des rôles politiques reconnus, elles sont pas dessinées, on n'a pas leurs portraits. Donc Olympe de Gouges un petit peu, Théroigne de Méricourt un petit peu, mais beaucoup a posteriori quand on fait d'elle une légende ou beaucoup de la part de la presse royaliste qui veut lui casser la baraque. Donc c'est pas, sont pas des portraits très fiables, quand il y en a. Donc en fait, on a quand même du... Il y a des descriptions physiques parfois, mais les critères ne sont pas les mêmes, les façons de décrire les gens ne sont pas les mêmes.
Théroigne de Méricourt, elle avait quand même loué un appart à Versailles pour être au plus près de la Révolution. Voilà, elle s'était dit, bon, je vais prendre un petit appart pour voir ça.
L'âme de bouge aussi, vraiment, il y a toute une population qui a bougé à Versailles pour voir ce qui se passait, participer. Et après, elle redéménage toute, Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, elle bouge pour être dans l'action, quoi.
Et on est d'accord que la bascule pour les femmes dans la Révolution, c'est quand même l'assassinat de Marat par Charlotte Corday. Moi, j'ai eu l'impression, regardant votre documentaire, que jusqu'ici, il y avait beaucoup de propos misogynes, on leur disait de tricoter des bas à la maison, mais elles pouvaient encore se réunir, il y avait encore plein de choses, et que là, ça a été vraiment l'occasion de dire, elles sont violentes, elles font n'importe quoi, il faut qu'elles rentrent chez elles.
Il y a une espèce de montée qui se fait progressivement, puisque l'engagement féminin est très fort dès le début de la Révolution française. Ensuite, elles se professionnalisent un petit peu dans l'exercice de la politique. On les laisse relativement tranquilles. Et puis, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un backlash, qui est assez violent, avec, en fait, ça part en partie d'un affrontement entre des différentes femmes, différents groupes politiques de femmes, pour une histoire de cocarde, le droit de porter la cocarde ou non, et le droit de porter des bonnets phrygiens ou non. Et c'est cette petite bagarre qui est pas grand-chose, hein, qui justifie que à l'Assemblée on commande une étude comme on fait aujourd'hui, voilà, un rapport sur est-ce que les femmes peuvent avoir des droits politiques ou pas, est-ce qu'elles sont aptes. Et l'étude, je sais pas si elle couvait depuis longtemps ou si elle est apparue comme par magie, mais en une journée, trois jours peut-être, max, le dossier est fait, et avec une conclusion vraiment très très claire, non, les femmes ne sont pas capables d'avoir des charges politiques, donc très vite, enfin immédiatement, il y a un décret, je crois, qui
dissout
déclare,
les clubs.
Plus le droit d'avoir des clubs féminins.
Et ce qui est fou, c'est que quand même en très peu de temps, il y a eu des avancées formidables. Pendant quelques années, le divorce qui était poussé par Olympe de Gouges, qui est demandé aux deux tiers par des femmes à l'époque, ça vous a pas fait un peu peur, Manon Bril, ce documentaire? On voit en quelques années, formidable avancée, des choses inédites, des femmes qui créent des clubs politiques, des journaux qui sont effacés de la vie politique presque du jour au lendemain.
Oui, grâce à Napoléon notamment et tout, qui est un révolutionnaire peu...
Il a bien bossé, ouais.
Qui a bien retourné sa veste après, si vous voulez mon avis. Bref. Mais oui, non, bah, peur, c'est sûr que c'est tout le temps. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le progrès social, en tout cas, on va dire, il n'est pas linéaire, il y a tout le temps des avancées et des reculs. Donc là, on est en plein dedans, clairement. La révolution n'est pas du tout féministe, quoi, vraiment.
Elle l'est au début. Mmh. Il est 18h55 et 555 secondes. Pour finir cette émission, j'ai besoin de vos lumières, Manon Bril, Émilie Valentin. J'ai besoin de vos kits de survie à la canicule et à d'autres choses, car on va en avoir besoin. De quoi, dans quoi plonger nos esprits pour oublier nos corps ruisselants? Pas aujourd'hui, mais d'autres jours. Manon, un truc à lire quand on est en déplacement tout le temps?
Bah, moi, en fait, en déplacement, je lis pas parce que j'ai un peu la nausée dans les transports, donc je joue à la Switch.
Bah, bravo, merci.
Jouer à Zelda sur la Switch, c'est la meilleure chose, je pense. Voilà.
Émilie Valentin, une vie de musicienne à découvrir avant d'aller en festival?
Alors, moi, je pense à Anne Sylvestre, que j'adore, et qui a un exemple d'émancipation. Et puis, avec sa chanson très célèbre qui parle du droit à choisir pour ou contre l'avortement, etc. Voilà, le droit à choisir, c'est important. Quand on
peut regarder sa vie, notamment sur Arte, dans votre série Queens.
Music Queens.
Music Queens. Un auteur latin à ne surtout pas lire, Manon Bril, qu'on évitera à tout prix.
Lisez pas du latin, c'est humiliant. Déjà, moi, je suis plus team grec, donc lisez des trucs grecs.
Lisez en grec, voilà, apprenez un alphabet,
c'est hyper facile,
plus simple. Relisez, relisez du grec.
Relisez en grec.
Relisez l'Odyssée, ça passe tout seul, pas vraiment.
Une œuvre sur la Révolution française, quelle qu'elle soit, Émilie Valentin.
Bon, alors, c'est pas une œuvre qui parle particulièrement de femmes, mais c'est L'abolition des privilèges de Bertrand Guillot. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est aux Avril. Ça raconte la nuit où...
Il y a eu une pièce de théâtre, non? J'ai peur de m'avancer en disant ça.
Je sais que ça va être adapté, que c'est adapté. Je ne sais pas, en tout cas, j'ai adoré le bouquin. C'est 24 heures chrono, mais au moment où on vote l'abolition des privilèges.
Jack donc, Bauer.
Complètement. C'est découpé par heure. C'est génial. Ça se lit super.
Et pour finir, Manon Bril, une meuf beaucoup trop badass pour son époque, sur laquelle je devrais me renseigner. Vous avez fait une série de
Joy
vidéos.
Joy Biolamwini, je l'adore et tout. C'est une informaticienne de 35 ans, 36 ans aujourd'hui encore, qui a montré pourquoi l'informatique c'était aussi extrêmement biaisé. Et non, les sciences dures ne sont pas neutres. Je vous la recommande de vous.
Comment elle s'appelle encore?
Joy Biolamwini, américaine, canadienne.
On la retrouve sur l'Instagram, le Manon Bril. Oui. Merci à toutes les deux. On retrouve vos kits de survie sur l'appli et le site de Radio France, évidemment. Je je vous remercie encore d'avoir inauguré ce mag de l'été, le documentaire Aux armes citoyennes, les femmes dans la Révolution française. C'est sur arte.tv, c'est jusqu'au 4 septembre. Et puis ça vous fait réviser la Révolution tout court en même temps, c'est pas mal. Vous êtes dans Internet, Manon Bril bien sûr, mais aussi à l'Européen à Paris à la rentrée, où votre spectacle Rodage en mode tranquille prendra son vrai nom, 300 000 ans, réservé dès maintenant. C'est du 11 septembre au 19 décembre, tous les jeudis et tous les vendredis. Bonne soirée à toutes les deux.
C'était... Merci.
C'était le mag de l'été avec à la technique Paola Collin, à la programmation Tara Naouri et Marion Philippe, à la réalisation Lucie Lemarchand et à la documentation Ibrahim Damani.